soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Bataille d'avocats aujourd'hui au procès pour diffamation de Sandra Müller, la journaliste créatrice de Balance ton porc. Courageuse pour les uns, menteuse pour les autres. Et encore une journée d'audience assez surréaliste au procès des époux Balkany. Il était question aujourd'hui du luxueux riad du couple à Marrakech. Les licenciements chez General Electric, Emmanuel Macron est responsable, dit Marine Le Pen. La mortalité sur les routes, confirmation d'une baisse historique. L'an dernier. Des poulets vivants ramassés à la moissonneuse, le volailler duc épinglé. Le tennis à Roland-Garros, journée en demi-teinte pour les Français, mais qui s'est achevée par un duel franco-français acharné. On verra ça avec Corinne Boulou. Et puis la nouvelle bande dessinée à emporter pour votre week-end, Blake et Mortimer, comme vous les avez jamais vus. Côté météo, en attendant le week-end estival promis, la journée de demain sera encore un peu nuageuse au nord de la Seine. De plus en plus bleu en allant vers le sud. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Comme chaque soir, 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Isabelle Salas Mendes. Elle est la responsable des partenariats chez Peugeot, l'un des grands partenaires de Roland-Garros, ça fait 35 ans.
Europe 1.
Et c'est elle donc qui avait créé en novembre 2017 le désormais célèbre hashtag Balance ton porc. La journaliste Sandra Müller était jugée aujourd'hui, poursuivie par l'homme qu'elle avait accusé nommément sur Twitter dans le sillage du scandale Weinstein, Éric Brion, ex-patron de la chaîne de télé Equidia, jugé donc pour diffamation. Théo Manval, les deux parties ont plaidé pendant près de 3 heures aujourd'hui, des plaidoiries très offensives, notamment du côté des avocats d'Éric Brion.
Oui, des avocats qui se sont attachés à dépeindre Sandra Müller comme une menteuse, une usurpatrice de la cause des femmes, motivée par une vieille animosité à l'encontre de leurs clients. Ils ont exhumé, ces avocats, des échanges de messages sur Facebook 4 ans après l'agression verbale subie par Sandra Müller, mais 1 an avant qu'elle ne la dénonce publiquement. Échanges dans lesquels elle reproche à Éric Brion de ne pas s'être abonné aux médias qu'elle dirige. Bref, le procès d'une diffamation qui serait motivée par une rancœur professionnelle. Sandra Müller n'est pas d'accord.
Évidemment que je ne suis pas une menteuse puisqu'il a reconnu les faits, il a reconnu les paroles. Et usurpatrice de quoi? Quand on est une femme, avoir des paroles déplacées, il faut se taire et il ne faut pas le dire parce que si vous le dites, bah vous êtes attaqué en justice. On est dans une inversion des rôles.
À la barre, ses avocats soulignent au contraire son courage à Sandra Müller, son rôle dans la libération de la parole des femmes. Il dénonce un procès visant à la bâillonner. Argument balayé par le conseil d'Éric Brion, maître Benoît.
Il n'y a pas de procédure Brion. Monsieur Brion, il a uniquement lancé cette procédure pour rétablir son honneur, que tout le monde comprenne qu'il n'est pas un harceleur et qu'il n'y a aucune raison qu'il continue à porter ad vitam aeternam cette étiquette de premier port.
Éric Brion qui s'est exprimé à la barre, il se dit en dépression, toujours sous médicaments, demande 50 000 euros de dédommagement et la suppression du tweet qui cite son nom. Le jugement sera rendu le 25 septembre prochain.
Théo Manval qui a suivi cette audience pour Europe. Un autre procès qui se poursuit, celui-là, celui des époux Balkany, 3e semaine. Le tribunal correctionnel de Paris s'est penché aujourd'hui sur les savants montages offshore du maire de Levallois et de son épouse, notamment lors de l'acquisition de leur somptueux riad de Marrakech. Salomé Legrand, cette audience a encore une fois tourné au chaud et cette fois, Salomé, la salle a découvert de nouveaux personnages.
Ah oui, le bras droit de Patrick Balkany pour commencer. Jean-Pierre Aubry, 57 ans, massif à la barre, présent à toutes les réunions pour acheter le luxueux riad. Son nom apparaît dans tous les montages, mais il le martèle. Cette maison n'est pas la sienne, c'est celle d'un homme d'affaires saoudien, un ami, dit-il, qui comptait sur lui. Pourtant, à l'écouter, il n'est spécialiste de rien, ni de l'immobilier marocain, ni des montages offshore. Il était là, dans le paysage, avec la même désinvolture matinée de clownerie que son mentor. Il répond au président qui lui demande à qui appartient la maison. À ce jour, l'État français. Le public, il l'arne, n'a même pas une entr'acte avant la deuxième partie, assurée par Mohamed Al-Jaber, le fameux businessman saoudien. Petit, aussi large que haut, il est remonté comme un coucou, s'exprime en anglais via un interprète pour étaler sa fortune en long, en large et en travers. Toutes ses propriétés dans au moins 8 villes du monde, qui sont toutes à son nom, avec ses 7 à 9 milliards de dollars de patrimoine et ses connaissances personnelles, dont Vladimir Poutine, il ne voit pas pourquoi. Pourquoi il aurait mandaté Jean-Pierre Aubry pour acheter une villa? D'autant moins qu'il le prenait pour le garde du corps de Patrick Balkany. Rire dans la salle. Ce dernier, qui a pris des notes frénétiquement, réclame la parole. Face au tribunal, il brandit la dette d'Al-Jaber vis-à-vis de Levallois. 14 millions d'euros, dit-il. S'il est si riche, demandez-lui de venir à la barre avec son chéquier.
Salomé Legrand du service police-justice de la rédaction d'Europe 1. Le principal suspect dans l'enquête sur l'explosion d'un colis piégé vendredi à Lyon a commencé à passer aux aveux. Il était présenté jusque-là comme assez peu coopératif. Le jeune homme de 24 ans dont l'ADN a été retrouvé sur l'engin explosif, sa garde à vue ainsi que celle de trois de ses proches a été prolongée. L'épisode avait été largement relayé. Cette tentative d'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux, c'était en janvier dernier, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Quatre d'entre eux devaient être théoriquement jugés aujourd'hui, mais ce procès a été annulé pour vice de forme, les avocats n'ayant pas pu rencontrer leurs clients à l'issue de leur garde à vue, comme l'explique maître Martin Méchin.
Ils ont voulu aller trop vite et ils ont mal fait les choses. Bah voilà, la prochaine fois, ils prendront peut-être un peu plus leur temps. Mais c'est assez symptomatique en fait de ce qui se passe depuis le début, notamment du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils vont très très vite. Ils font parfois un peu n'importe quoi. Là, c'est un dossier qui est médiatique, mais c'est arrivé dans d'autres dossiers où il y a eu des annulations de procédures parce que le parquet veut aller trop vite. Voilà. Il y a des règles à respecter, en fait. Même si on a beaucoup de personnes déférées, même s'il y a des incidents dans les rues, dans les manifestations tous les samedis, il y a des règles à respecter. Et c'est la base de la démocratie, c'est la base de notre état de droit, c'est qu'il faut respecter les règles, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce que vient de rappeler le tribunal aujourd'hui.
Maître Martin Méchin, l'un des avocats des Gilets jaunes qui devait théoriquement être jugé aujourd'hui, il était au micro Europe 1 de Mathieu Bock.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h06, c'est la suite de votre journal et le gouvernement sommé d'agir pour sauver les emplois chez General Electric. L'intersyndicale appelle à stopper ce carnage et l'opposition demande des comptes, notamment à Emmanuel Macron. Marine Le Pen dénonce la gestion de ce dossier au plus haut sommet de l'État.
La responsabilité du gouvernement est totale parce qu'ils ont caché cette information qu'ils avaient. Ils l'ont cachée durant le temps de l'élection pour la révéler en réalité le lendemain de l'élection. Ça, c'est une manœuvre qui est indigne. La manière dont se comportent les dirigeants français qui aujourd'hui vendent nos fleurons à la découpe est évidemment très critiquable, très contestable. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un banquier. Donc, je veux dire, lui, il passe sa vie à faire des fusions-acquisitions. Il se moque totalement de savoir le nombre de salariés qui vont rester sur le carreau. C'est dans sa manière de penser. Il ne se comporte pas comme un chef d'État. Il se comporte comme un banquier. Ben, les banquiers, ça fait ça.
Marine Le Pen à Bruxelles avec Isabelle Horry, la patronne du Rassemblement national, qui réclame donc des comptes à Emmanuel Macron. L'exécutif, par la voix de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dément avoir eu quelque information que ce soit concernant ce plan social. Notez d'ailleurs que Sibeth Ndiaye sera l'invité du grand rendez-vous européen Les Échos CNews dimanche. Et puis le ministre de l'économie, lui, est attendu à Belfort la semaine prochaine. Et ça va mal aussi du côté de Whirlpool, Amiens. Un an tout juste après la reprise du site par l'industriel local Nicolas Decailleux, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Les salariés avaient manifesté leur inquiétude ces derniers mois, inquiétude qui était visiblement fondée. Le député de la Somme, François Ruffin, dénonce 6 mois d'inaction du gouvernement. Il exige désormais une implication du président et de l'argent sur la table. Une confirmation ce soir également dans l'actualité. 2018, année record. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes de France. On a les chiffres définitifs. 3488 décès quand même au total, métropole et outre-mer confondus. Effet conjugué de plusieurs mesures selon le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe.
Exactement, des milliers de poulets sont entassés dans un bâtiment.
Vous l'avez compris, nous n'avons pas écouté Emmanuel Barbe, nous allons l'écouter tout de suite, à moins que nous passions au sujet suivant. Il faudrait simplement qu'en régie, on puisse me dire ce qu'on fait avec les sujets. Est-ce qu'on est prêt pour écouter le délégué ministériel à la sécurité routière ? Non, visiblement, ça repart en tout cas. C'est bon, nous allons pouvoir écouter, pardon pour ce gros cafouillage, le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe.
Ce qui a fait beaucoup de polémiques, c'est évidemment la mesure de passage à 80, mais on a quand même épargné près de 130 vies humaines. C'est considérable. Chaque jour, il y a 9 personnes qui trouvent la mort sur nos routes. Il y en a 7 fois plus qui sont blessées graves. Les causes sont très claires de mon point de vue. C'est évidemment la mesure 80 sur le deuxième semestre et puis le fait qu'on ait beaucoup parlé de sécurité routière. Ensuite, il y a eu, je pense, quelques mesures qui avaient été prises avant, qui ont beaucoup joué, et notamment l'obligation de désigner la personne flashée qui conduit un véhicule d'entreprise, puisqu'on a vu une baisse très sensible du nombre des contraventions. Donc c'est cette conjonction de choses et j'espère qu'on va pouvoir garder cette tendance.
Voilà le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe qui était au micro Europe 1 de Yasmina Katou. Des routes qui sont très chargées pour les départs de ce long pont de l'Ascension. Vous étiez nombreux et vous êtes encore nombreux. C'est rouge ce soir, ce sera encore rouge demain. Un long week-end qui s'annonce, soit dit en passant, estival. Et Elena Morna nous confirmera tout ça dans un instant. 4 syndicats hospitaliers appellent à une journée de mobilisation et de grève nationale le 11 juin. Ils veulent toujours obtenir une hausse des effectifs et des salaires.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h10. Des poulets ramassés à la moissonneuse et projetés dans des casiers. C'est la nouvelle vidéo choc de l'association de défense des animaux L214. Vidéo tournée au mois d'avril, Pauline Jacquot, dans deux élevages du volailler Duc, dans l'Yonne et dans l'Aube, avec donc des scènes assez terribles.
Exactement, des milliers de poulets sont entassés dans un bâtiment fermé, des poulets sélectionnés pour leur viande, donc beaucoup plus gros que la norme avec une ossature très fragile. Sur les images, certains ont les pattes cassées, d'autres sont étalés au sol. Ils ne peuvent plus bouger ou se retourner à cause de leur poids. On voit aussi des poulets morts, piétinés, et c'est une sorte de moissonneuse effectivement, qui ratisse le sol pour attraper ces volatiles, décrit Sébastien Arsac de l'association L214.
On voit une énorme machine qui va aspirer les poulets sur une sorte de tapis roulant, et puis deux employés qui, en haut des tapis roulants, vont distribuer les poulets dans des caisses. Ils arrivent pas tout à fait à la vitesse de balle de tennis, mais quand même, ils arrivent très très vite. Il faut remplir ces caisses. Les caisses sont vraiment surbondées et ils vont rester dans ces caisses pendant plusieurs heures, conscients, vivants, et donc c'est beaucoup de douleur pour ces animaux-là.
Sur son site internet, le volailler Duc insiste pourtant sur le bien-être des animaux, jusqu'à parler de confort pour les poulets, respect des normes, charte d'élevage. L'industriel nous confirme que ces images ont bien été tournées dans leurs élevages, mais laisse l'interprofession répondre à leur place. Ces intrusions relèvent du harcèlement, dit une porte-parole. Ces images ne reflètent ni notre quotidien, ni notre travail.
Les précisions de Pauline Jacquot pour Europe 1. Allez, on part tout de suite à Roland-Garros, jour 4.
Roland-Garros 2019.
Jeu, set et match.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Et une journée en demi-teinte pour les Français qui s'est conclue, Corinne Boulou, par un final explosif entre Benoît Paire et Pierre Hugerbert.
Oui, alors il fallait bien un vainqueur, Isabelle, et c'est Benoît Paire qui, dans l'obscurité tombante, s'est imposé 11 jeux à 9 dans le cinquième et dernier set, au moral et au physique, au terme d'une bagarre de 4h30. L'Avignonnais de 30 ans aurait pu tuer le match plus tôt à deux reprises. Dans le troisième et quatrième set, il sert pour la qualification, puis il obtient même une première balle de match au tie-break du quatrième, mais Pierre Hugerbert revient à chaque fois. L'Alsacien, pourtant émoussé, après avoir déjà disputé 5 sets au premier tour, pousse son copain dans ses retranchements. À l'usure, Benoît Paire s'impose et la longue accolade entre les deux joueurs à la fin de ce combat en disait long sur ce qu'il venait de vivre. Alors, Benoît Paire rejoint au troisième tour Nicolas Mahut, qui a 37 ans, fait de la résistance et profite de ce qui pourrait bien être son dernier Roland-Garros, mais aussi le jeune Corentin Moutet qui, du haut de ses 20 ans, se hisse pour la première fois au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. C'est terminé en revanche pour Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Kristina Mladenovic.
Merci Corinne Boulou qui nous fait vivre ce tournoi de Roland-Garros avec Christophe Lamarre. Notez que Nadal et Federer, eux, poursuivent pour l'instant leur route tranquillement, sans trop forcer. Voilà donc pour ces dernières infos de Roland-Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Un mot de foot, l'attaquant vedette de Marseille, Mario Balotelli, suspendu pour 4 matchs fermes par la Ligue pour son mauvais geste face à Montpellier, c'était vendredi dernier. Il ne pourra donc pas prendre part aux 4 premiers matchs de la saison prochaine, à condition bien sûr qu'il reste à Marseille, ce qui n'est pas gagné. Et puis en ce moment, on se joue la finale de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal, les deux clubs londoniens qui s'affrontent pour remporter cette petite Coupe d'Europe, rencontre qui a lieu à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Et pour l'instant, c'est Chelsea qui domine 1-0, un but marqué par Olivier Giroud. Et puis on va finir ce journal par de la bande dessinée. Vous connaissez sans doute Blake et Mortimer. Eh bien, 4 auteurs belges ont décidé de reprendre les personnages créés en 1946 par Edgar P. Jacobs. Ce nouvel album s'appelle Le Dernier Pharaon. Il est sorti aujourd'hui et Thierry Geoffrotin l'a feuilleté pour nous.
Vous pensiez Blake et Mortimer figés à jamais dans les années 50 et attachés à Londres. Vous allez être très surpris. Les deux héros ont vieilli. Nous sommes au début des années 80 et c'est Bruxelles qui va servir de décor à une histoire fantastique et même apocalyptique. De mystérieuses radiations s'échappent du palais de justice. Une histoire dont le point de départ a été fourni par le créateur de Blake et Mortimer, Edgar Jacobs, décédé en 1987. Oh, pas grand-chose, mais ce pas grand-chose a inspiré François Skuyten, l'un des 4 auteurs de cet album.
Quelques notes qu'il a laissées où il disait « Blake et Mortimer au palais de justice de Bruxelles » et c'est comme s'il me tendait la main. L'idée qu'il avait eu l'intention de poser ses personnages dans ce palais monstrueux, incroyable, qui domine la ville de Bruxelles, alors je me suis dit là, ça y est.
Et c'est parti pour 4 ans de travail, avec au final une histoire digne de Jacobs, truffée de références à plusieurs de ses albums. Reste le dessin, magnifique, avec un soin particulier accordé aux couleurs. Mais là encore, les habitués de la série risquent d'être très surpris.
Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Elena, l'ascension des températures, c'est pour demain.
Exactement Isabelle, Jésus est monté au ciel comme les températures qui vont monter après une chute assez remarquable ce matin, 1 à 3 degrés dans le Loir-et-Cher. Voilà des températures boostées maintenant par un anticyclone, le soleil et l'air chaud qui remontent du Portugal. Alors ce sont les régions du tiers sud qui seront concernées par le duo soleil-chaleur demain, avec des pointes à 28 degrés en Occitanie, 26 à Bordeaux et Avignon, 25 à Marseille. Sur la partie centrale du pays, du Poitou-Charentes-Savoie, là ce sera chaud, beau, mais un peu moins bleu qu'au sud. Vous aurez 24 degrés à Angoulême, 23 à Lyon et Grenoble. Au nord de la Loire, là, on n'est pas vraiment sur le même tempo. Nuageux et quelques éclaircies de la Bretagne et Cotentin jusqu'en Île-de-France et Franche-Comté, avec 23 degrés à Rennes et Paris. On aura 20 degrés à Carteret, dans le Cotentin, ou encore 18 degrés à Besançon. Et puis un secteur sans éclaircies et encore quelques gouttes, c'est le nord de la Seine jusqu'en Alsace, avec 15 degrés seulement à Boulogne-sur-Mer, 20 à Lille et Strasbourg. Mais alors, vendredi, samedi, dimanche seront là trois belles journées estivales, avec des pics de chaleur jusqu'à 30 degrés, chaleur qui va remonter jusqu'au nord. Profitez-en, la semaine prochaine sera un peu moins belle, un peu plus humide, parfois électrique, mais douce.
On va en profiter, c'est promis. La météo signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Isabelle Salas-Mendez. Elle est la responsable des partenariats chez Peugeot. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
À 22h17, on s'intéresse bien sûr à la bourse avec vous Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui reste déprimé par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Oui, c'est mauvais. Le bras de fer commercial entre Américains et Chinois continue d'inquiéter grandement les marchés financiers, alors que Pékin menace désormais d'utiliser les fameuses terres rares dont le pays regorge comme arme de négociation. Et ça fait flancher le Dow Jones de 0,87%, troisième séance de baisse, 25 126 points. Le Nasdaq cède 0,79%, là aussi troisième séance de repli, à 7 547 points. Et toutes les valeurs de technologie, les valeurs exportatrices baissent. Google, moins 1,7%, Apple, moins 0,3%, IBM, moins 0,6%, Amazon, moins 0,9%. Il y a une grosse dégringolade, là c'est du côté de la mode, du côté de l'habillement. Abercrombie chute de 26%, 26,5%.
C'est beaucoup.
Ouais. Oui, 18,39$. Il y a de la casse, comme on dit, après des ventes encore très décevantes au premier trimestre et une perte de 19,2 millions de dollars. Le pétrole retombe un petit peu. On est sous les $70 le baril, $69,50 le Brent. Exxon recule du coup de 0,5%, $72,24. L'euro baisse aussi à 1,1130 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, Didier, du coup, aussi a accusé le coup en forte baisse en clôture.
Forte baisse, oui, moins 1,7%, 5 222 points. Ça continue donc de baisser dans un marché nerveux en raison évidemment de l'affrontement commercial entre Chinois et Américains. Et ce sont les valeurs exportatrices, là aussi, qui ont le plus souffert. ArcelorMittal, moins 4,1%, 13,55€. Le groupe sidérurgique va réduire la production d'acier primaire dans certaines de ses usines françaises et allemandes. On a aussi Saint-Gobain, moins 2,1%. Qui baisse, l'automobile, Valeo, moins 4,2%, Faurecia, moins 3,5%, ce sont les équipementiers, encore une fois, qui souffrent le plus. Elior, là, on est dans la restauration collective, recul de 3,9% après des comptes plutôt décevants.
Exception du jour, Didier, la société de Luc Besson, EuropaCorp, qui est remontée en flèche.
Plus 106%, une véritable explosion. Le titre a plus que doublé de valeur, donc en une seule séance, 1,28€. Il faut dire que la société de Luc Besson fait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis le 13 mai dernier et est en discussion avec le groupe Pathé en vue d'une prise de participation. Évidemment, ça alimente la spéculation. Donc plus 106% ce soir pour EuropaCorp. Sur les autres places financières en Europe, ça baisse partout. La bourse de Francfort, moins 1,6% avec Bruxelles. Madrid, moins 1,2%. Milan, moins 1,3%. Londres, moins 1,15%. Et Paris donc, le CAC 40 à Paris, moins 1,7%, 5 222 points.
Même quand le marché est nerveux, il conserve toujours un calme exemplaire. Didier Hameau de boursier.com. Merci beaucoup Didier. Merci.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir la responsable des partenariats chez Peugeot.
Bonsoir Isabelle Salas-Mendez.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes responsable des partenariats et du sponsoring chez Peugeot. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est parce que vous êtes l'un des grands partenaires de Roland-Garros. Ça commence à dater, hein. Je crois que c'est même un anniversaire rond cette année. C'est la 35e année où vous êtes partenaire de Roland-Garros. De façon très concrète, on vous voit bien évidemment un petit peu partout à la télé, mais aussi c'est vous qui transportez tous les joueurs. 225 voitures, 230 voitures que vous mettez à disposition, c'est ça l'idée ?
Oui, effectivement. Normalement, il n'y a pas d'autres marques qui approchent les stades. On met à disposition de la Fédération des tennis 230 voitures qui transportent donc, les joueurs, les officiers, les VIP, mais aussi le grand public, puisqu'il y a des navettes qui partent de plusieurs points à Paris pour amener le grand public au stade.
Quel est le but comme ça d'être partenaire depuis 35 ans de Roland-Garros et d'être aussi fidèle à Roland-Garros ?
Alors, le but, c'est bien sûr de s'associer à ces tournois et au tennis en général. Les partenariats, ils fonctionnent quand ils durent dans le temps. Donc, faire un partenariat une année et puis arrêter, ça ne marque pas les esprits. Je pense qu'effectivement, en France, 35 ans de partenariat, 35 ans des voitures qui circulent à Paris avec le sticker Peugeot partenaire officiel de Roland-Garros et qui annonce un peu l'été, hein, l'arrivée de l'été, tout le monde le remarque. Donc, c'est un gros événement pour nous qu'on prépare depuis la fin de l'année précédente. Mmh. Et on est très fiers d'être partenaire de ces tournois.
Alors, comme vous dites, ça ne sert à rien d'être partenaire si on reste un an et on part. Mais est-ce qu'au bout de 35 ans, finalement, vous ne faites pas partie des meubles et on oublie presque que vous êtes partenaire tellement qu'on a l'habitude de vous voir sur cet événement ?
J'espère pas. Non, j'espère pas. On essaye d'ailleurs d'activer des façons différentes chaque année le partenariat en utilisant l'image de nos joueurs et surtout à l'étranger parce que c'est en France une évidence, mais à l'étranger un peu moins. Donc il y a les matchs qui sont retransmis partout dans le monde. On voit notre logo lors de ces retransmissions, mais nous, avec ces campagnes, on insiste pour que notre notoriété puisse augmenter dans certains marchés et que les valeurs qui sont associées à Roland-Garros et qu'on partage, nous aide à monter en gamme, c'est ce qui est notre objectif.
Oui, c'est ça, parce que si vous êtes partenaire de Roland-Garros depuis 35 ans, du monde du tennis en général, c'est un petit peu plus récent. Vous êtes le sponsor et un des sponsors principaux des plus grands tournois. On peut se dire le tournoi de Cincinnati, le tournoi de Miami aux États-Unis, qui sont des étapes incontournables pour ceux qui adorent le tennis. Et pourtant, vous n'êtes même pas distribué aux États-Unis. Alors, vous allez bientôt y revenir. Hein, là, d'ici quelques mois, Peugeot va arriver aux États-Unis, mais on peut se dire... Pourquoi dépenser tant d'argent dans un pays où jusque-là, vous ne vendiez pas une seule voiture ?
Alors, je ne sais pas si on va venir d'ici quelques mois, mais...
Ah si, ça a été annoncé
quand même. Quand on a signé avec l'ATP et qu'on a choisi d'être partenaire du tournoi de Miami, on n'avait pas connaissance qu'on allait retourner aux États-Unis. Donc, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle on est présent sur ces tournois. On est présent sur ces tournois parce qu'en analysant les audiences, on a remarqué que 90% vient de l'extérieur des États-Unis. Et du coup, ce qu'on cherchait justement, c'est avoir de la visibilité et être associé à un tournoi comme celui de Miami, qui est un des plus gros Master 1000 de l'ATP World Tour.
Et du coup, vous êtes capable, après coup, de vous dire, bah, tiens, là, il y a eu pendant cette semaine le tournoi de Miami et on voit un petit pic de vente ou comment ça se calcule que ce partenariat est véritablement intéressant ?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Non, le lien entre le pic d'audience lors d'un tournoi et les ventes n'est pas si direct, malheureusement pour moi. Mais on travaille sur l'image, effectivement, avec les études. On voit l'effet de nos campagnes, on voit l'effet de la présence de notre logo lors des retransmissions. Ça, on peut le calculer, pas l'effet sur les ventes.
Pas l'effet sur les ventes. Vous le disiez d'un mot à Isabelle Salas-Mendez, je rappelle que vous êtes la responsable des partenariats chez Peugeot. L'idée aussi, c'est d'accompagner notre montée en gamme, parce que le tennis est considéré comme un sport un petit peu plus haut de gamme, et ça permet de montrer que Peugeot est de retour, notamment dans le haut de gamme, parce que je crois que parmi les voitures là, que vous prêtez pour le tournoi de Roland-Garros, on est sur du haut de gamme, on est sur les 3008, on est sur les 5008.
Oui, nous on profite effectivement de ce tournoi pour présenter nos derniers produits, nos nouveautés. Dans la flotte de 230 voitures, aujourd'hui on a 25 nouvelles 500 SW qui viennent d'être lancées en France le 26 mai, il y a quelques jours. Et il y a 50 508. Donc c'est pour nous un privilège de pouvoir transporter tous ces publics et les joueurs dans nos dernières produits. Et puis ça nous permet de montrer un peu toute la partie technologique qui embarque nos voitures.
Je pense qu'il y a une question qu'on vous pose aussi beaucoup. Ça coûte combien d'être partenaire de Roland-Garros pour Peugeot ?
Ça coûte combien être partenaire ?
Vous dépensez combien d'argent? Ça vous coûte combien de mettre à disposition cette flotte, d'avoir le droit de mettre votre logo un peu partout?
L'important, ce n'est pas ce qui nous coûte, mais ce qui nous rapporte.
Oui.
Et ça nous rapporte, on a calculé que ça nous rapporte fois 6, c'est ce que ça nous coûte. Donc pour l'instant, c'est donc toujours c'est... un deal intéressant.
Et est-ce que vous ne risquez pas de vous faire déloger un jour? Parce que j'imagine que si ça vous faites fois 6, il y a pas mal de marques concurrentes qui doivent se dire bah, « Tiens, nous, on a bien envie aussi d'apporter nos véhicules à Roland-Garros. » Est-ce que chaque année, c'est une bataille un petit peu plus rude pour rester en place?
C'est pas chaque année, parce qu'on négocie pas le contrat toutes les années.
C'est tous les 3 ans, c'est...
Mais à chaque fois que le contrat arrive à échéance, effectivement, c'est un risque. Maintenant, ça fait 35 ans qu'on y arrive, donc je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas.
Bon, alors toute petite dernière question, cette fois totalement hors du monde du tennis. J'ai envie de vous parler de football, puisque pendant très longtemps, Peugeot a été associé au FC Sochaux, alors un club qui malheureusement est loin de ses heures de gloire, mais qui va très très mal. Il y a même plusieurs appels des supporters à dire « mais il faudrait que Peugeot vienne nous aider ». Est-ce que vous allez les aider? Est-ce que vous allez revenir dans le football avec le FC Sochaux?
Alors, juste pour vous expliquer un peu le contexte, jusqu'à 2016, on avait une stratégie sponsoring axée en 3 sports. Donc, il y avait le tennis, le rugby, le golf et bon, le football, parce qu'on était propriétaire de ce club. En 2016, on a décidé de tout concentrer dans le tennis parce qu'on a décidé que c'était le sport qui allait le mieux avec nos valeurs et aussi parce que c'est un sport international qui touche tant les hommes comme les femmes. Et pour cela, on a abandonné tous les autres sports.
Donc même le poids de l'histoire ne vous fera pas revenir au FC Sochaux?
Non, et en plus, le football, c'est un sport qui ne va pas trop avec nos valeurs en ce moment.
Ah bon? Pourquoi ça ne va pas avec vos valeurs?
Parce que ça véhicule des valeurs un peu plus populaires et nous, on essaye de monter en gamme, donc c'est pas d'actualité.
C'est pas d'actualité. En tout cas, un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Isabelle Salas-Mendes était donc notre invitée, la responsable des partenariats et sponsoring chez Peugeot. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous et à demain, évidemment, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et puisqu'on parlait de foot à l'instant avec Emmanuel Duteil et son invité, je vous rappelle qu'en ce moment se joue la finale de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal. Un petit point, Chelsea mène pour l'instant 3-1, but signé Olivier Giroud, Pedro et Eden Hazard pour Chelsea et but signé Iwobi pour Arsenal. Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin à la une de vos quotidiens. Une ardoise qui s'allonge, écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Ford à Blanquefort, Whirlpool à Amiens, Ascoval à Valenciennes, General Electric à Belfort. La liste est déjà longue des camouflets essuyés par l'exécutif depuis le début de ce quinquennat. La forêt sauvage gagne du terrain en France, nous dit pour sa part Le Figaro. Le 3e massif forestier d'Europe n'a jamais été aussi important. Il représente aujourd'hui 16,9 millions d'hectares, soit près de 31% de la surface de l'Hexagone. Un accroissement davantage dû au reboisement naturel qu'aux replantations volontaires. Culture bio, la crainte de l'industrialisation, titre Ouest France. Des agriculteurs appuyés par des ONG et des chefs cuisiniers ont lancé une pétition pour dénoncer un risque d'industrialisation de la filière bio. Au cœur des débats, des projets de grande ampleur, sous serre chauffée, notamment dans l'Ouest. Et puis médias, l'État traque, l'info trinque, c'est le titre du journal Libération. Convocation en série de journalistes à la DGSI, pression sur les sources, rapport houleux avec l'Élysée. Depuis 2 ans, écrit Libération, Macron s'emploie à verrouiller l'information. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et Chelsea qui domine 4-1 face à Arsenal, dernier score de cette soirée. Je vous souhaite une excellente émission en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Et je vous retrouve tout à l'heure à 23h.
À tout à l'heure.